Merci Daniel pour cette intro. Alors, avant de commencer cette introduction, je vais penser présenter un chant particulièrement beau à mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, oui, je l'ai fait pour toi. Oui, le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour moi. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Et les prières qui ont été entendues manifestent que plusieurs cœurs ont compris et ont saisi la grandeur d'un Dieu qui nous a purifiés de toutes nos fautes et nous recevra bientôt dans cette maison, dans la maison de son Père, pour pouvoir le glorifier bien mieux que sur la terre et donner toute la gloire à Dieu, car c'est à lui que ça revient et à lui seul. Alors, oui, tu l'as fait pour moi, que chacun puisse en prendre sa part et qu'on retienne les paroles de ce chant, quelques-unes en tout cas, pour le dire à d'autres. Voyez-vous ce que Dieu a fait pour moi? Il a donné sa vie. Qui peut prétendre avoir un plus grand amour que celui-là, que de donner sa vie, même pour ses ennemis? C'est ce que Jésus a fait. Alors nous entendons ce beau chant.
Je sais que pour moi Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. C'est que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu.
Quelle autre plus merveilleuse fonction que d'être des témoins, humbles, fidèles et heureux pour ce Dieu que nous connaissons. Ce n'est pas seulement une question de foi. Ce n'est pas quelque chose que nous avons saisi un jour, mais nous savons que nous avons été touchés par la main de ce Dieu vivant, de ce Dieu riche, qui nous a donné la paix avec Dieu et qui l'a acquise à si grand prix. Alors, le sujet que j'avais proposé, ce que j'avais pensé vous présenter aujourd'hui, était le livre de Ruth, en tout cas une partie, de cette belle histoire d'une femme d'exception que la Bible nous raconte. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et nous donne de saisir quelque chose de sa grandeur à lui. Seigneur, notre Dieu, nous voilà devant toi. Nous sommes devant ta parole sainte, ta parole puissante, ta parole sanctifiante, une parole d'espérance, une parole de vie que tu nous accordes de vivre. Oui, Seigneur, comme déjà dit, nous souhaitons que tu nous sanctifies entièrement. Tu nous demandes de le faire nous-mêmes. Mais le Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et dans cette pensée que nous sommes sanctifiés par le précieux sang de Christ qu'il a répandu à la croix, Seigneur, ouvre nos cœurs pour que ta parole nous transforme encore comme tu souhaites que nous le soyons, c'est-à-dire à l'image de ce Sauveur merveilleux que tu es, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous nous adressons à notre Père et te demandons ta bénédiction sur ces moments. Amen. Le livre de Ruth fait suite au livre des juges. Il y avait 11 ou 12 juges qui nous sont rapportés dans la parole de Dieu, pour ne pas dire des rois, c'est-à-dire des personnes qui régnaient sur le peuple d'Israël en ce temps-là. Mais, hélas, est-ce que le peuple s'est laissé transformer par le témoignage de ces gens qui, nous en connaissons quelques-uns? Pour citer le plus connu, c'était Gédéon, par exemple, dont nous connaissons bien l'histoire. Et hélas, le peuple, malgré les victoires que le Seigneur proposait au travers des actions de ces juges-là, Le dernier verset de ce livre des juges se termine misérablement en disant « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait selon son bon plaisir. » Pas de roi, pas de référence pour ce peuple. Ce que devait être le rôle d'un roi, un exemple pour son peuple. L'absence de repères, des lois divines négligées, sinon refusées. Nécessairement, ce genre de situation amène à un avertissement solennel de la part de Dieu et il provoque une famine dans son peuple. Alors, nous allons reprendre brièvement l'histoire ou l'historique du livre de Ruth, qui commence par une famine dans le pays d'Israël, une épreuve, un avertissement pour le peuple, comme nous disions. Et la meilleure attitude serait de s'interroger pour quelle raison le Seigneur a permis cette épreuve, puis d'attendre la réponse du Seigneur. Pourquoi cette épreuve ? Élimélec, dont il est question ici, un Israélite qui était uni, qui avait pour épouse Naomi, et avait deux fils, Macon et Kilion, décide de s'en aller hors du pays d'Israël pour rechercher de quoi se nourrir et échapper ainsi à la famine. Et il s'en va dans un pays étranger qui est le pays de Moab. Et dans ce pays de Moab, les deux fils de Macon et Kilion épousent des Moabites. L'un épouse Orpa, l'autre épouse Ruth. Et Ruth la Moabite. Une femme remarquable qui devient un exemple exceptionnel de conduite. Et cependant, le verdict de l'Éternel était sévère. Il avait dit ceci en Deutéronome 23, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel, même leur dixième génération. Pas dans la congrégation de l'Éternel, à jamais. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous quand vous sortiez du pays d'Égypte avec du pain, et parce qu'ils ont loué à prix d'argent Balaam pour vous maudire. Voilà les raisons pour lesquelles le Seigneur avait déclaré cette sentence terrible pour Moab et pour l'Ammonite, pour Ammon. Les fils d'Ammon, ils n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Et il faut remarquer que Ruth fait partie de la cinquième génération. Le Seigneur avait dit, même pas la dixième, quelle grâce de Dieu, quelle grâce de notre Dieu. Et ce que je souhaiterais développer un petit peu devant vous, ce sont ces sept déclarations de Boaz. Parce que Boaz est un personnage qui apparaît à un moment déterminé lorsque il faut savoir que Élimélec va mourir dans ce pays de Moab. Ses deux fils aussi vont disparaître. Il va donc rester trois veuves. Naomi, son épouse, Orpa et Ruth. Qu'est-ce que l'Éternel va faire ? Eh bien, Ruth va se distinguer. Et elle va dire ceci, « Ne me prie pas de retourner vers mon peuple. » Parce que Naomi disait, « Est-ce que je pourrais encore avoir des fils ? Est-ce que si ces fils-là, vous attendiez qu'ils grandissent et que vous deveniez encore mes belles-filles, Marie a des fils que j'engendrerai. Non, mes filles, retournez vers votre peuple. Orpa pleure sur l'épaule de sa belle-mère et s'en retourne au pays de Moab. Ruth, la Moabite, dit, ne me prie pas de m'en aller, parce que où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai et y serai enterré. Quelle magnifique déclaration de la part d'une Moabite qui était quelque part rejetée par l'Éternel à cause de son peuple et à cause des manifestations à l'égard d'Israël, de ce peuple de Moab. Alors, en fait, le message que je voudrais vous les élever, c'est quelques commentaires sur cette déclaration de Boaz. Lorsqu'il rencontre Ruth, il lui pose ces différentes questions, ou elle lui propose en tout cas ces différents thèmes. Ce sont donc les versets 8 à 9 du premier chapitre de Ruth. Je vous le cite. Boaz dit à Ruth, qui était venue dans son champ pour accompagner les moissonneurs, puisque c'était la période des moissons. Boaz dit à Ruth, Boaz était un ami de la famille, un ami de Ruth, et en tout cas, il faisait partie de la famille d'Élimélec. Nous verrons ça plus tard aussi. Et il dit ceci, Boaz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'en va pas non plus d'ici. Mais tiens-toi auprès de mes jeunes filles, aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va à Pézel. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. Ces sept points-là sont sur le tableau que vous pouvez voir. Et nous remarquons d'abord une similitude avec les conseils divins. Tu entends, n'est-ce pas, ma fille ? Cette expression est utilisée pour la première fois dans les commandements de l'Éternel, qu'on considère comme étant les 10 paroles, les 10 commandements. Vous savez par quoi ça commence, le premier commandement ? Vous vous souvenez quel est le premier commandement ? Il commence par ceci. Écoute Israël. Écoute Israël. Et on a fait un chant qui s'appelle Shema Israël. Ça veut dire en hébreu, écoute Israël. D'abord, se tenir à l'écoute, c'est ce qui est le plus important. Comment connaître, comment savoir. Si l'on tend une oreille attentive, on apprend, et le cœur est touché. Et le cœur, c'est le centre de tout ce qui se passe ou se passera dans notre vie. Selon Proverbe 4, verset 23, ce conseil de Salomon, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Ces paroles de notre Seigneur sont pour nous aussi. Et le Seigneur en Matthieu 6 nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quelle est notre priorité ? Quelles sont nos priorités ? Nos propres désirs ? Ou alors avons-nous écouté ce que le Seigneur nous propose ? C'est ce que Dieu nous propose, ses priorités à lui. Et c'est une ruse de l'ennemi de nous empêcher par toutes sortes d'obstacles de saisir l'occasion, dit l'apôtre Paul à Timothée, parce que les jours sont mauvais. On en prend encore des exemples dans les actualités. Saisir l'occasion car les jours sont mauvais. Deuxièmement, ne va pas dans un dernier, dans un autre champ. Blaise Pascal a dit, le cœur de l'homme est un vide qui a la forme de Dieu. Un vide, il n'y a qu'une chose qui peut le remplir, ce vide du cœur humain, c'est notre Dieu. Peut-on trouver dans ce monde quelque chose qui rassasie autre que cette bonne parole de notre Dieu? Si nous sommes là, c'est parce que nous avons trouvé des richesses insondables dans cette parole de Dieu et nous aimons l'entendre et la réentendre. C'est bien un éclairage spirituel d'amour que la parole de notre Dieu. Une parole de justice, une parole de paix, autant que solennelle, que nous sommes appelés à partager avec notre héritage. Quand nous avons des richesses, quand nous avons des biens, est-ce que nous n'aimerions pas, selon ce que le Seigneur nous demande, de partager avec notre prochain? Troisième point. Ne t'en va pas non plus d'ici. Sous-entendu, tu y seras au mieux. Sommes-nous bien ici? Est-ce qu'on est bien à Bligny? Est-ce qu'on est bien parmi nos frères et sœurs? Est-ce que nous nous sentons bien lorsque le Seigneur nous donne d'une manière variée des enseignements, des exhortations, des encouragements aussi? Ce que nos frères nous ont préparé pour que, se tenant devant l'Éternel, il nous dispense de merveilleux conseils d'amour, de grâce, de paix et d'encouragement. Quatrièmement, tiens-toi ici près de mes jeunes filles, une compagnie respectable et respectueuse qui contient tous les éléments qui permettent de s'épanouir et qui ont la possibilité de procurer des conseils divins qui sont appréciés, qui sont vécus conformément à la volonté de notre Dieu. Un groupe de jeunes filles en ce temps-là accompagnait généralement des personnes nobles. Et même en ce temps-là, un groupe de jeunes filles accompagnait l'épouse qui était dirigée vers son époux lors du mariage. Et les yeux sur le champ qu'on moissonne. Dans l'Évangile, le Seigneur invite à prier, à le prier, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le premier champ à s'occuper, c'est notre famille. Le Seigneur enverra des ouvriers aussi, des missionnaires, comme on les appelle, dans le monde entier. Mais en ce qui nous concerne, chers frères et sœurs, nous avons un champ missionnaire exceptionnel, notre famille. Et les yeux sur les champs qu'on moissonne, ça réclame une attention particulière pour encourager et épauler ces ouvriers. Car à ce temps-là, ce genre de travail était bien pénible. Il n'y avait pas les tracteurs que nous avons maintenant. Et c'était bienvenu d'aider les moissonneurs. Mais actuellement, une aide précieuse aussi est bienvenue et variée est nécessaire pour accompagner et encourager les ouvriers du Seigneur. La moisson, la récolte des fruits de la terre dont il est question dans ces paragraphes, se conclut par une fête de l'Éternel et à l'Éternel, parce que le Seigneur donne des occasions de se reposer et de se réjouir des bénédictions qu'il a données. En ce temps-là, les récoltes étaient pour la nourriture des autochtones. Sixièmement, n'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ? Boaz avait cette autorité-là de commander à ces jeunes hommes qui faisaient partie des moissonneurs, comme les jeunes filles d'ailleurs, « Vous ne touchez pas à Ruth. » Et la première épître de Jean nous apprend qu'il a plaisir à écrire cette catégorie d'hommes, les jeunes hommes. Nous trouvons en Jean, chapitre 2, versets 13 et 14, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. » Ça nous dit, n'est-ce pas ? Nous avons nous aussi cette responsabilité de combattre le méchant, les méchancetés, les péchés qui nous enveloppent si aisément. La vie chrétienne, vous le savez, autant que moi, est un combat continuel. Je vous ai écrit, jeunes gens, continue la première épître de Jean, je vous ai écrit, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. Une répétition. Vous êtes forts, parce que vous avez lutté, et vous êtes devenus vainqueurs. Vainqueurs par Christ, nous le sommes et nous le pouvons. Pour comprendre les Écritures, bien souvent, il nous faut faire un parallèle de ce que la parole de Dieu nous présente avec ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici Boaz et nous verrons dans quelques instants combien ce Boaz a des qualités qui ressemblent à celles de notre Seigneur bien-aimé. De sorte que nous pouvons dire que nous avons notre divin Boaz. Et le bien-aimé du Cantique des Cantiques dit ceci. La Sulamite dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. » Et la traduction que nous utilisons d'habitude dit ceci, aussi ajoute « Un porte-bannière entre 10 000. » Quelle est notre appréciation du Seigneur ? Est-ce que notre Seigneur est blanc, d'une pureté éclatante ? Est-ce qu'il est vermeil, reluisant ? Je regardais dans la haut ce que ça signifie, vermeil. C'est un alliage d'argent, de grande pureté, absolument pur, recouvert d'or. Quelle valeur ! Eh bien, quelle valeur accordons-nous à notre Seigneur ? Quelle est la valeur que j'ai pour me soumettre à la volonté de mon Seigneur et de mon Dieu ? Quelle est sa valeur quand il me demande « Purifions-nous de toute souillure de chair et d'esprit ? » Est-ce que je l'écoute ? Est-ce que c'est mon désir de l'être ? Vraiment ? Comment voyons-nous celui qui nous a délivrés d'une si grande mort ? L'apôtre Paul en 2 Corinthiens 1, 10 dit « C'est lui qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre et en lui nous avons mis notre espérance et il nous délivrera, il nous délivrera encore. » Le point suivant, le 7. Si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les jeunes hommes puisent. Ruth est envoyée dans le champ de Boaz pour glaner à la suite des moissonneurs de Boaz. Et Paul dit ceci. Paul se dit persuadé que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il écrit aux Philippiens, dont il vient de dire avant, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, depuis le jour où nous avons trouvé le Seigneur, ou plutôt le Seigneur nous a trouvés, nous avons tellement envie de partager cette richesse de la connaissance du Seigneur Jésus qui nous a délivrés de tant de choses mauvaises dans lesquelles nous nous complaisions quand nous étions en dehors de la connaissance du vrai Sauveur. La bonne nouvelle est en Christ, l'incarnation de Dieu, dont nous connaissons l'œuvre de rédemption qu'il a faite à la croix. Paul nous affirmera jusqu'où il peut aller dans la connaissance de ce Sauveur. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir à gain. Est-ce que nous avons déjà sondé ces affirmations de la parole de Dieu? Pour moi, vivre, c'est Christ. Est-ce que je peux réaliser? Et dans quelle mesure? Est-ce que vraiment, pour moi, mourir, ce serait un gain? Est-ce que j'ai déjà imaginé ce que pourra être une vie avec le Seigneur pour l'éternité? Supplions le Seigneur. C'est notre première démarche. Une prière fervente. Si nous aimons notre prochain, nous mesurons la perte immense que ça va être d'être loin de Dieu pour l'éternité. Premièrement, sois un ouvrier utile au maître, dit l'apôtre à son enfant Timothée. Sois un ouvrier utile au maître. Voilà notre destinée. Préparé pour toute bonne œuvre. Ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce qu'il est la puissance de Dieu en salut pour quiconque croit. Est-ce que c'est un projet que je nourris, que j'accomplis pratiquement jour après jour? Est-ce que je m'édifie moi-même sur ma très sainte foi, comme dit aussi quelque part la parole de notre Dieu? Et troisièmement, rappelons-nous que nous devons lutter pour entrer par la porte étroite. Mon épouse me fait le souvenir que dans les jours d'autrefois, il y avait une pancarte dans chaque maison de protestants. Il y avait cette image de la porte étroite et du chemin large et spacieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. En tout cas, à côté de chez une de mes tantes, il y avait un maraîcher qui était protestant. Et il avait mis dans sa boutique aussi ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Et cette porte étroite par laquelle il fallait lutter pour entrer. Et vous savez, une porte étroite, on n'y entre pas avec ses valises. Pas la peine d'apporter à notre Dieu nos mérites. Mais le Seigneur nous permet d'entrer par la porte étroite. C'est par Jésus. La porte, je suis la porte, a dit le Seigneur Jésus, qu'il faut entrer dans la présence de notre Dieu. Alors, souhaitons sans relâche. Le temps n'est plus à l'indifférence. L'ennemi de nos âmes voulait nous occuper à toutes sortes de choses. Parce que lui n'hésite dans aucune manière d'entraîner ses victimes à la perdition. Mais sachons que Christ est vainqueur. Et le Seigneur a dit, attention, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il le répète à deux reprises. Est-ce que nous le savons? Est-ce qu'il n'est pas de saison de nous rappeler ces choses? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il le dit dans Matthieu 12, verset 30, et en Luc 11, verset 23. Et il dit, entrez par la porte étroite, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il est ajouté aussi, deux fois en Matthieu, cette entrée par la porte étroite, Matthieu chapitre 7, verset 13, et Luc 13, verset 24. Vous savez, quand le Seigneur répète deux fois une chose, c'est que c'est important. Ce n'est pas un apax. Ce n'est pas une fois seulement que cela est dit. Et donc, il nous faut être doublement attentifs. Alors, notre rôle, à nous, il y a bien évidemment l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous est rapportée dans le chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Nous savons bien cela. Et nous avons l'habitude de dire, laissons l'Esprit accomplir son rôle. Et nous, quel est notre rôle? Véritablement. Paul en Timothée 4, versets 1 à 3 déclare, je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts et par son apparition et par son règne. Prêche la parole, et pas seulement que les prédicateurs. Prêche la parole, c'est individuel. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc. Tiens, je croyais que seulement l'Esprit Saint devait convaincre. Convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et doctrine. Il nous faut user de patience et il nous faut en même temps user de doctrine. Combien c'est important de connaître la parole de Dieu si nous savons avec amour dire à notre prochain le chemin qui mène au Seigneur. Car il y aura un temps où ils ne supporteront plus le saint enseignement. S-A-I-N. Ils ne supporteront plus le saint enseignement. Quel rôle nous avons à jouer dans notre entourage, chers amis. Ma prière est celle aussi de l'apôtre Paul, le désir de mon cœur et la prière instante que je laisse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous souhaiterions? La plupart du temps, nous faisons des repas avec notre famille. Il y a un repas qui nous est préparé dans le ciel. Ce sont les repas des noces de l'agneau. Et si nous disions à nos enfants, petits-enfants, voire arrière, petits-enfants, est-ce que vous souhaiteriez que nous soyons pour l'éternité ensemble? Vous aimez bien que nous soyons là ensemble maintenant. Et pour l'éternité, y avez-vous déjà pensé? Nous en connaissons le chemin. Vous l'avez peut-être déjà discerné depuis un certain temps chez vos parents, chez votre papa, auprès de votre maman, auprès de vos grands-parents. Mais racontons à nos enfants cette histoire de Ruth et montrons-leur le chemin qui mène à la vie. Revenons au texte de Ruth pour terminer. Nous y apprenons que Boaz prend la Ruth pour épouse. Mais avant cela, il a encore un obstacle à traverser. Il se trouve que Élimélec avait un certain nombre de parents, dont un personnage que la Bible nous présente comme étant quelqu'un qui a le droit de rachat de la parcelle qui appartient à Élimélec. Et en bon dispensateur de la vérité selon notre Dieu, Boaz dit, il va trouver cette personne-là et lui dit, écoute, tu sais, tu as le droit de rachat, tu as le droit de péremption sur ce domaine qui appartient à Élimélec. Alors le personnage dit, je rachèterai, dit cet homme, et Boaz dit, le jour que tu rachèteras le champ, de la main de Naomi, sache que tu rachèteras aussi de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt et son héritage. Et celui qui avait droit de rachat dit, je ne puis racheter, pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Alors toi, use de mon droit de rachat. C'est ainsi que Ruth est devenue l'épouse légitime de Boaz, et en conclusion, elle devient l'arrière-grand-mère de David, le roi David. Elle donne naissance à un fils, à son mari Boaz, qui s'appelle Obed. Obed, nous dit la Bible, est le père d'Isaïe, et Isaïe est le père de David. C'est ainsi qu'elle devient l'arrière-grand-mère de David. Alors pour terminer, mes chers amis, je vous donne lecture d'une anecdote que vous connaissez peut-être, ou sinon je vous la rappellerai. Et ça s'appelle « Sous la vague ». Connaissez-vous cet épisode-là, « Sous la vague » ? Non. Une maman veuve avait un fils qui semblait indifférent à l'Évangile. Elle souhaitait ardemment que son enfant rencontre le Seigneur. Je crois que nous avons aussi cette préoccupation-là. Et dès qu'il eut l'âge, il voulut s'engager comme mousse dans la marine. Ils habitaient Toulon. C'est là que se trouve la marine française. Le jeune homme fait les démarches pour être engagé, mais avec un cœur bien lourd, la maman prépare une valise et lui dit « J'y ai placé une Bible et j'aimerais que tu la lises aussi régulièrement que possible. » Un oui furtif pour ne pas déplaire à sa maman, qu'il appréciait et qu'il aimait vraiment, mais sans plus de conviction pour la lecture de la Bible. Connaissant un ami de son mari, le sachant chrétien, elle lui demanda de prendre soin de son fils un peu plus tard, à naufrage. Plus de nouvelles de son fils. Elle apprit que l'ami de son mari y avait échappé. Elle lui demanda des nouvelles de son fils. Hésitant, cet ami lui répondit que la dernière fois qu'il a vu son fils, c'était sur une planche qui s'y débattait au milieu des vagues furieuses, et le dernier mot qu'il a prononcé avant d'être emporté par une vague, c'est un juron, un blasphème. La réponse de la maman, le Seigneur l'aura trouvé sous la vague, parce qu'elle priait instamment pour son fils. Un mois plus tard, la maman reçoit une lettre. « Maman, je suis soigné dans un hôpital après avoir été retrouvé sur une plage. Dès que j'aurai récupéré suffisamment de force, je rentrerai à la maison. Mais sache que le Seigneur m'a trouvé sous la vague. » Je ne peux pas contenir une émotion parce que c'est tellement poignant et c'est une histoire vraie, chers amis. Alors, continuons à supplier le Seigneur pour que nos enfants, nos petits-enfants rencontrent le Seigneur et lui donnent leur cœur et qu'ensemble, nous puissions vivre une éternité de bonheur.